C.S. Lewis, L'autobus du paradis ou Le grand divorce. Préface. William Blake a écrit Le mariage du ciel et de l'enfer. Si j'écris sur leur divorce, ça n'est pas que je m'estime être un adversaire à la hauteur d'un si grand génie, ni même que je sois assuré d'avoir compris ce qu'il dit. Mais d'une façon ou d'une autre, la tentative de faire ce mariage a toujours eu lieu. Elle se base sur la croyance que la réalité ne nous met jamais en face d'alternatives absolues, du genre soit l'un soit l'autre, mais qu'avec de l'habileté, et surtout avec beaucoup de patience, on finira par trouver un moyen d'avoir l'un et l'autre. Développons, ajustons, raffinons, et le mal se transformera en bien sans que nous soyons appelés à rompre radicalement avec des choses que nous souhaitons conserver. Je vois là une erreur désastreuse. Dans certains voyages, vous n'êtes pas autorisé à emporter n'importe quel bagage. Parfois, il vous faudra même laisser derrière votre main droite ou votre œil droit. Nous ne vivons pas dans un monde où toutes les routes seraient comme les rayons d'un même cercle qui, à condition de les suivre assez longtemps, conduiraient toujours plus près du centre et finalement y aboutiraient. Les chemins de ce monde sont plutôt de ceux qui bifurquent au bout de quelques kilomètres, pour bifurquer de nouveau un peu plus loin, nous forçant chaque fois à prendre une décision. Même sur le simple plan biologique, la vie ne ressemble pas à une rivière, mais à un arbre. Elle ne se meut pas vers l'unité, elle s'en éloigne au contraire, et plus les créatures croissent en perfection, plus elles se distinguent les unes des autres. Au fur et à mesure qu'il grandit, le bien devient toujours plus différent, non seulement du mal, mais de tout autre bien. Je ne veux pas dire par là que quiconque se trompe de route est voué à la perdition, mais seulement qu'il ne peut trouver le salut qu'en reprenant le bon chemin. On ne rectifie pas une addition manquée en lui ajoutant d'autres sommes, mais en revenant en arrière jusqu'à ce qu'on ait détecté l'erreur. On peut réparer le mal, mais on ne peut pas le développer jusqu'à en faire un bien. Et ce n'est pas le temps qui le guérira. Le charme doit être dénoué, brin par brin, avec les gémissements de regret que provoque tout ce qui retranche. C'est toujours ceci ou cela. Si nous nous cramponnons à l'enfer, ou même à la terre, nous ne verrons pas le ciel. Si nous choisissons le ciel, il ne nous sera plus possible de garder de l'enfer la moindre parcelle, pas même celle à laquelle nous aurons tenu le plus. Je suis bien sûr persuadé que quiconque parvient au ciel y retrouve ce qu'il a abandonné, fût-ce l'œil qu'il s'est arraché ou la main qu'il s'est coupée, et que l'essentiel de ce qu'il avait cherché, même dans ses désirs les plus dépravés, est là, de la façon la plus imprévue, en attente de lui dans le haut pays. En ce sens-là, ils pourront dire ce et ceux-là seuls qui seront arrivés au terme du voyage, que le bien est toute chose et que le ciel est partout. Mais pour nous, qui sommes encore à l'autre bout de la route, il serait vain d'anticiper cette vision rétrospective. Si nous tentons de le faire, nous risquons fort d'inverser les termes et de tomber dans l'erreur de ceux qui disent que tout est bon et qu'on trouve partout le ciel. Mais me demanderez-vous, qu'en est-il de la terre ? Eh bien, je pense que, en fin de compte, on s'apercevra que la terre ne constitue pas un lieu tout à fait à part. Si on l'a préférée au ciel, elle ne se révélera d'avoir été, d'un bout à l'autre, qu'un coin de l'enfer. Si, au contraire, on l'a mise à la seconde place, on verra qu'elle a eu, dès le début, quelque chose du paradis. Deux mots encore à propos de ce petit livre. Ce sera d'abord pour confesser une dette à l'égard d'un écrivain dont j'ai oublié le nom, mais dont j'ai lu jadis un article dans un magazine américain à sensation, consacré à ce qu'on appelle aujourd'hui science-fiction. C'est à lui que je suis redevable de l'idée d'une matière céleste absolument rigide et incassable. Cette idée, toutefois, mon auteur l'a utilisée dans un dessin fort différent, et d'ailleurs des plus ingénieux. Son héros voyage à rebours dans le passé, et il y trouve, comme il se doit, ou bien des gouttes de pluie qui le percent comme le feraient des balles, ou bien des sandwichs dans lesquels il lui est impossible de mordre. Rien n'est fait de ce qui est passé, ne peut être changé. Cette idée, je l'ai appliquée avec assurément moins d'originalité, mais j'espère autant d'à propos à ce qui est éternel. S'il arrive à l'auteur dont je parle de tomber sur les lignes que j'écris en ce moment, je lui demande d'agréer mes remerciements. Je voudrais, en deuxième lieu, inviter mes lecteurs à ne jamais perdre de vue que ce livre est une œuvre d'imagination. Il renferme, bien entendu, une morale, ou du moins j'ai voulu lui en donner une, mais la description qu'il fait de la vie après la mort est purement fantaisiste. Ce n'est pas une réflexion spéculative, pas même une conjecture sur ce qui nous attend dans l'au-delà. Exciter une curiosité matérielle à l'égard des particularités du monde futur est bien la dernière des choses que je souhaiterais. Avril 1945, C.S. Lewis.